Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bonjour Immacula, soyez bénis, bonjour Farley, que Dieu te bénisse. Bonjour Rosie, soyez bénis. J'espère que vous passez une bonne matinée. On est le vendredi 27 mai 2022. Journée pluvieuse aujourd'hui. Pas mal de pluie même par moment. Très, très chaud non plus. Il fait pas très froid là non plus dans le coin, mais c'est un peu plus frisquet qu'hier. Suis pas sûr d'avoir salué tout le monde. Qui sont connectés que je ne vois pas. Bonjour à mon père, bonjour à ma mère, bonjour à la belle-mère. Nihao Yaoi. Que Dieu te bénisse. La pluie viendra, Rosie, la pluie viendra. Votre jardin en a assurément besoin. Marie-Huguette, bonjour. Cette fois-ci, c'est ma mère, donc bonjour à ma mère et mon père ce coup-ci. On a fait l'inverse il y a quelques instants. Shalom, la belle-mère. Alors aujourd'hui, on conclut notre étude de Jérémie 33, le verset 2. La semaine prochaine, on passera au verset 3. Et on conclura donc notre série sur ce court passage. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse. C'est pas tout à fait la saison encore des cerises ou des fraises dans notre coin. Les fraises arrivent avant les cerises ici. Les fraises sont quelque part d'environ 2 ou 3 semaines probablement, on devrait voir apparaître les fraises du Québec. Pour l'instant, c'est les fraises qui viennent d'au loin. Mais les fruits et les légumes vont être très chers cette année. Déjà que l'année dernière, C'était pas mal plus cher, mais cette année, ça va être encore davantage. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. C'est très gentil Pascal, soyez béni. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Est-ce que l'électricité est revenue dans votre coin maintenant? On parlait ce matin encore de 45 000 abonnés dans les Laurentides qui sont privés d'électricité. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'on a réactivé l'électricité? Là, je réponds à ma mère. Non, pas vraiment. Il y avait trop de moustiques. Donc, j'ai juste fini l'assemblage. J'ai allumé, pris quelques clichés et puis j'ai posté ça. Mais il y avait vraiment trop de moustiques. Et ils étaient violents. Pascal, je cultivais un peu le même rêve que vous, mais après ça, je me suis rendu compte que dans notre coin, à nous, il y a lièvre, écureuil, moufette, quoi d'autre? Raton laveur, belette probablement aussi, sans compter tous les oiseaux. Donc si je m'amusais à faire un jardin, je ne mangerai pas grand-chose, mais la faune locale se régalerait. Donc pour éviter qu'il soit trop dans mon jardin ou dans ma cour, j'ai pas fait de jardin jusqu'à présent. Bonjour Thérèse. Sois bénie. Ouais, les moustiques, terrible. Alors ça a été les guêpes d'abord, donc on a fait un traitement puis ça s'est terminé. Mais les moustiques sont pullulent actuellement, ça n'a pas de bon, ça n'a pas de sens. On a déjà eu effectivement un bac, nous aussi, près de la garderie de Daphné. Et j'y ai fait pousser quelques concombres et puis des radis. Mais comme c'était loin de la maison, c'était embêtant d'aller là-bas. Bonjour Maggie. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour Marie-André. Rosie, dans notre quartier, il n'y a personne qui fait de jardin justement à cause de toutes les bestioles qui y sont. On a des gens qui aiment pourtant planter des jardins et tout ça, donc on a beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbustes, mais personne ne fait de jardin avec des plantes comestibles, justement à cause de tous les de tous les toutes les bestioles qu'elle a. Ah, Faut croire que les moustiques du Québec sont plus costauds. Les bougies à la citronnelle, ça fonctionne pas dans notre coin. J'ai tout essayé. La lavande, l'eucalyptus, l'huile d'eucalyptus, la citronnelle, même des bidules électroniques. Puis y a rien de très performant ou dont la portée est assez grande. Parfois on met quelque chose sur la table pour manger à l'extérieur, mais ça s'arrête là. Bernadette, bonjour. C'est clôturé, mais ils passent en dessous. Vraiment, ils passent en dessous, ils sont terribles. Janine, bonjour. Rebonjour au frère Gilles. Tu es déjà rentré à la maison, Gilles. Sois béni. Bonjour à Guy. Merci Maggie, soyez bénie vous aussi. Encore une minute et on va débuter. Dalila, bonjour. Ça fait quelque temps que je ne vous voyais pas. Que Dieu vous bénisse. Très content de vous avoir avec nous ce matin. Babette, Andreas, bonjour. Toujours un plaisir que vous passiez de temps à autre, Daïla. Alors prions et puis on va débuter. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée qui débute, pour cette occasion que nous avons encore de plonger nos regards dans ta parole. Et l'occasion, Seigneur, que tu nous accordes afin d'être nourri, abreuvé, restauré, transformé par cette même parole. Que ta grâce nous soit accordée, afin, Seigneur, de bien saisir ta pensée, de bien saisir ton cœur, et plus encore, Seigneur, de permettre à cette parole d'apporter ce qu'elle doit apporter dans notre vie, des changements, des transformations, parfois des changements radicaux, parfois des subtilités qui passe hors de notre vision, de notre vue, mais qui sont importantes pour toi. Alors Seigneur, fais ce qu'il te semble approprié, bon pour nous. Nous savons que tout ce que tu fais est parfait. Alors nous te laissons le contrôle de ces quelques minutes. Nous te laissons le contrôle, Seigneur, de nos vies, afin que tu fasses par nous, en nous et à travers nous ce que tu désires. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue en ce vendredi 27 mai à notre étude de ce matin, à notre bénédiction de ce matin. Simplement vous aviser qu'il se pourrait que ce soir je ne sois pas en ligne. J'ai deux enterrements demain, deux funérailles à préparer pour demain. Il se pourrait que je ne sois pas disponible ce soir. Donc, les funérailles plus l'enseignement de dimanche. Donc, voilà. On va tout faire pour être là. On espère avoir terminé avant l'heure de notre prière. Mais sinon, je vous avise déjà qu'il se pourrait que je ne sois pas là. Alors, je lis pour vous le texte de ces 3 semaines, Jérémie 33, du verset 1 au verset 3. Et je relirai le verset 2. En fin de lecture, tout simplement pour que nous puissions avoir cette parole qui s'imprègne correctement en nous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit, l'Éternel qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je répète le verset 2, deux fois. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Une dernière fois tous ensemble. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Alors que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Alors la semaine dernière, avec le verset 1, on a essentiellement parlé du fait que Dieu parle encore. Et on a même repris en début de séance lundi et dimanche, puisque c'est la reprise de la prédication de dimanche, comme quoi Dieu veut encore parler, même dans nos circonstances difficiles. Cette semaine, l'emphase a plutôt été mise sur le fait que Dieu non seulement parle, mais Dieu agit encore aujourd'hui. Il est le même dans tous ses attributs, dans toutes ses qualités, dans toutes ses facettes, et il agit encore aujourd'hui. Ça veut donc dire que peu importe quelle soit la situation que tu rencontres, particulièrement puisqu'on parle de la prison et des leçons qu'on apprend à travers la prison, notre Dieu agit encore aujourd'hui, même dans la prison. Alors qu'on avait enfermé Jérémie et qu'on essayait de le taire et qu'on essayait de le faire oublier, Dieu s'approchait malgré tout de lui, lui révélait encore sa pensée, lui parlait et lui donnait les instructions nécessaires. Donc Dieu venait à sa rencontre et agissait. Et là, le Seigneur va lui dire, regarde, même si tu es en prison, même si les choses semblent sombres, puisses-tu te rappeler? La gorge qui picote ce matin. Puisses-tu te rappeler que je suis encore celui qui agit? Le terme « asa » qu'on a vu mardi matin avec celui qui fait ces choses. Donc, celui qui agit encore. Hier, c'était l'Éternel qui les conçoit. Les choses que Dieu fait, il les a conçues. Il les a préparées, il les a pensées. Ça veut dire qu'il l'a fait selon sa volonté. Et aujourd'hui, on pousse un peu plus loin. C'est l'Éternel qui les exécute. Exécuter, le verbe exécuter, c'est le terme kun. En hébreu, kun, K-U-N, kun, exécuter, qui veut dire affermir une chose, préparer une chose, fixer une chose, arranger une chose, placer une chose, ou attacher, sceller une chose. Je répète, donc exécuter, kun, affermir, préparer, fixer, arranger, placer, attacher, sceller une chose. On a vu que Dieu fait des choses. On a vu que ces choses-là ne sont pas faites de façon improvisée, qu'elles sont réfléchies. Et là, on nous dit que ces choses réfléchies, c'est Dieu qui les exécute. Ces choses qui ont été pensées dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même les exécute. En fait, ce que Jérémie apprend ici, c'est que la puissance de Dieu est toujours à la hauteur de la volonté de Dieu. Il dit, c'est moi qui fais ces choses. C'est moi qui y ai pensé et je les exécute. Dieu n'a pas des plans et des désirs qui dépassent sa capacité à faire. Ça veut donc dire que tout ce que Dieu veut, Dieu est capable. Et la Bible nous dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc il n'y a rien qu'il ne soit pas capable de faire. Mais la chose importante, c'est de savoir que l'action de Dieu cadre toujours avec sa volonté. Quand on dit que l'action cadre avec la volonté, ça a deux aspects. Un, c'est que Dieu est à la hauteur de ses prétentions. S'il dit qu'il est capable de faire quelque chose, c'est qu'il est capable de faire quelque chose. S'il dit qu'il va faire quelque chose, c'est qu'il a la capacité, la puissance, l'autorité, le droit de faire une chose. Alors, lorsque le Seigneur dit qu'il va te bénir, c'est qu'il a le droit, la capacité, le désir et la volonté de te bénir. Lorsque Dieu dit toutefois qu'il sanctionne certaines choses, c'est que Dieu a aussi la capacité de sanctionner des choses. Il y a deux visions qui s'affrontent souvent sur Dieu, qui sont à la fois erronées l'une comme l'autre. Il y a cette vision du père fouettard. Dieu qui est ce vieux monsieur avec une cravache, pas une cravate, mais une cravache, avec un petit fouet, un martinet, avec un bout de bois, prêt à frapper à la moindre erreur. Donc le Dieu qui sanctionne, le Dieu qui punit. En contrepartie, il y a tous ceux qui prônent un certain laxisme dans leur pratique et qui disent « Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas punir. Dieu est tellement amour qu'à la dernière minute, il va quand même sauver l'ensemble de l'humanité. » C'est totalement faux. Ce n'est pas biblique. Dieu châtie celui qu'il aime. Et s'il ne le faisait pas, ça voudrait dire deux choses. Un, qu'il a menti en ne châtiant pas. Deux, qu'il a menti en ne châtiant pas celui qui la marie, celui qui l'aime. Et troisièmement, en ne tenant pas sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et s'il dit qu'il châtie celui qu'il aime, ça veut donc dire que, un, Dieu châtie. Et s'il t'aime, effectivement, il y a des correctifs à apporter à ta vie. Dieu ne peut pas te laisser aller dans un laxisme. Dieu ne peut pas te laisser aller dans une débandade. Tout simplement parce que il t'aime. Dieu ne peut pas te permettre d'aller à l'encontre de sa pensée tout simplement parce qu'il t'aime. Dieu ne peut pas excuser sans sanction ton péché tout simplement parce qu'il t'aime. Et là, vous allez tous me dire, mais Florent, on n'a pas payé pour notre péché. Effectivement, le salut nous est offert gratuitement. Mais le salut en soi n'est pas gratuit. Christ a payé pour ton salut gratuit. C'est comme lorsque tu es invité au restaurant par quelqu'un, t'as beau ne pas sortir ton argent pour payer ton repas est néanmoins payé par quelqu'un. Donc il est gratuit pour toi, mais il ne l'a pas été pour Christ. Ton salut est gratuit à ton égard, mais il n'est pas gratuit pour celui qui te l'offre. Christ a payé. Et en payant, il a subi la sanction du péché qui incombait à tout un chacun. Il a subi la sanction du péché qui devait retomber sur toi, sur moi et sur tout le genre humain. Mais Dieu est amour. Et Dieu est aussi juste. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être permissif par rapport au péché. Voilà pourquoi il se fallait que le péché soit sanctionné et que la dette du péché soit payée. Et le seul qui pouvait faire ainsi, c'était Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc Dieu a une volonté. Dieu a un plan. Et ce qu'il exécute va être en accord avec son plan. Et si Dieu dit qu'il a la puissance de te bénir, c'est qu'il a effectivement toutes les capacités et toutes les ressources. Alors pourquoi s'inquiéter? Alors pourquoi craindre? Alors pourquoi prétendre que nous sommes seuls quand nous savons que nous avons à nos côtés le seul qui nous est réellement nécessaire? Il y a des couples qui sont tellement amoureux qu'ils pensent ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre. La réalité, c'est que la seule personne de qui tu ne devrais pas pouvoir te lasser et de qui tu ne devrais pas pouvoir penser même exister sans la présence de cette personne, c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que toute chose dépend de lui. Parce que toute chose vient de lui, parce que toute bénédiction vient de lui, parce que toute grâce vient de lui, parce que toutes tes ressources viennent de lui, parce que toutes tes capacités viennent de lui, et parce que tout ce qu'il fait est parfait. Alors comment pouvons-nous nous en priver? Comment ne pas cultiver la présence de Dieu dans notre vie? Comment ne pas cultiver la communion avec son esprit dans notre vie, sachant tout ce que ça devrait représenter et tout ce que ça peut apporter? Le grand malheur, c'est que très souvent, lorsque nous passons par des moments difficiles, comme Jérémie dans la prison, on pourrait avoir tendance de se clore à Jésus, de se fermer à notre Dieu. On pourrait avoir tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes et à ne penser qu'à nous, au lieu de regarder autour sur toutes les manifestations de grâce et de bénédiction desquelles Dieu nous couvre. Ce matin, hier, je recevais un courriel d'une sœur qui passe actuellement par des moments de santé précaires et qui recevait des traitements de chimiothérapie hier, et qui me disait combien elle avait été bénie par mon propre témoignage et les enseignements qu'on a eu à partager. Et elle disait qu'elle souriait à l'instant même alors qu'elle recevait sa chimiothérapie. Pourquoi souriait-elle? Pourquoi est-ce que moi je souriais lorsque je recevais effectivement cette chimio? Parce que nous savons, elle comme moi, comme tous ceux qui arrivent à sourire dans les moments difficiles, que notre Dieu n'est pas à la fin de ses bénédictions, de ses grâces et de sa compassion à notre égard. Et plus encore, nous savons que tout ce qu'il nous a promis, il est tout à fait capable d'être à la hauteur de ce qu'il a promis. Il est tout à fait capable d'ouvrir la mer lorsqu'il dit que tu dois traverser la mer. Il est tout à fait capable de te mener à bon port lorsqu'il te dit que tu dois traverser la mer. Il est tout à fait capable de te faire marcher sur l'eau quand il te dit de t'avancer jusqu'à lui. Notre Dieu est à la hauteur de toutes ses prétentions, et prétentions dans le bon sens du terme. Il est à la hauteur de tous ses dires et de toutes ses affirmations. La puissance de Dieu est toujours à hauteur comparable avec sa volonté. Tout ce que Dieu veut, Dieu peut. Alors tout ce que Dieu veut dans ta vie, Dieu le peut. Tout ce qu'il veut amener, susciter dans ton existence, Dieu le veut et Dieu le peut. Chose particulière dans ce verset, en français on le voit trois fois, en espagnol ou en hébreu, dans certaines versions, en tout cas que j'ai vu en espagnol, on le voyait quatre fois. Je relis le texte avec la version qui multiplie un certain mot. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit, l'Éternel qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Je répète pour que vous voyez bien. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit, l'Éternel qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. À cinq reprises, on va parler du terme Yéhovah qu'on a eu à mentionner mardi matin. À cinq reprises, on va mettre une emphase particulière sur Yéhovah. Pourquoi? Parce que Jérémie est en prison. Et Jérémie est peut-être dans un contexte où il se demande où est Dieu et ce que fait Dieu. Et Dieu s'approche de lui en lui rappelant « Je suis l'Éternel. Je suis celui qui est. Je suis celui qui existe. » Parce que Yéhovah veut dire « celui qui est » et « celui qui existe ». Parfois, on a besoin effectivement que Dieu vienne nous voir en disant « Hey, je suis ton Dieu, non ?» On a parfois besoin de la petite voix du Saint-Esprit qui vient nous parler en disant « Florent, Je suis encore le même aujourd'hui. Je suis encore bon. Je suis encore puissant. Je suis encore établi sur le trône éternel. Jérémie en avait besoin dans ces moments difficiles. Et je crois que c'est pour ça que Dieu va rappeler 5 fois le terme éternel. Et il termine ce verset en disant que son nom est l'éternel. Nom, le mot nom, c'est le terme grec, hébreu plutôt, Sem, S-E-M, qu'on a déjà étudié à quelques reprises, notamment dans les psaumes. Nom, Sem, c'est au-delà de l'appellation. Très souvent, et j'ai eu à le dire à la blague cette semaine et dimanche, l'éternel, c'est pas un prénom. L'éternel, c'est un attribut. L'éternel, c'est pas un nom de famille. Parfois, on parle de Jésus-Christ comme si Christ était le nom de famille. Non, Christ est une fonction. Christ est un rôle. Christ est une position qu'il occupe. L'éternel est aussi plein de sens. L'éternel est effectivement ce qu'il est. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera pour toujours. Celui qui était excellent et parfait hier, celui qui est excellent et parfait aujourd'hui, celui qui sera excellent et parfait demain. Sem, au lieu de signifier un nom, Sem veut dire une caractéristique, une réputation, une renommée, ou voire un objet qui commémore une chose, un mémorial, pourrions-nous dire. Ici, la vraie formulation devrait être « Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit, l'Éternel qui les exécute, lui dont la réputation est l'Éternel. » Lui dont la réputation est l'Éternel. Qu'est-ce que ça nous démontre ici ou qu'est-ce que ça doit nous apprendre ici? C'est que la volonté et l'action de Dieu sont toujours en parfait accord avec qui il est. Je répète, la volonté et l'action de Dieu sont toujours en parfait accord avec qui il est. Dieu ne peut pas convoiter une chose ou convoiter faire une chose ou penser faire une chose qui va à l'encontre de sa sainteté, de sa pureté. Dieu ne peut pas faire une chose qui va à l'encontre de sa sainteté et de sa pureté. Pourquoi? Parce que ça attaquerait sa réputation. Si Dieu faisait des choses à l'encontre de sa parfaite volonté, parfaite personne et parfaite action, ben, ce qui se passerait, c'est qu'on lui dirait « tu es injuste ». Si Dieu n'était pas juste envers tous, les gens pourraient se plaindre, les gens pourraient se lever devant lui et l'accuser, alors que notre Dieu ne peut être accusé de quelques sévices, de quelques mauvais traitements et de quelques injustices. Et c'est là où la question du salut par la grâce et le salut à travers la mort et la résurrection de Jésus, c'est là où on comprend que c'était l'acte le plus juste qui soit. Pourquoi? Parce qu'il est uniforme et similaire pour tout un chacun. Le salut n'est possible qu'à travers la mort et la résurrection de Christ, pas à travers autre chose. Certains voudraient que le salut soit accessible à travers nos bonnes actions, à travers notre travail assidu. La problématique, c'est que peu importe la tâche qui serait demandée à ce moment-là, elle serait simple ou compliquée et varierait dans une multitude de couleurs selon la personne à qui on demande de faire cette chose. Disons que le salut était de courir ou était possible en courant un marathon. Vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui physiquement sont mieux constituées pour courir un marathon que quelqu'un d'autre. Si le salut était tributaire d'un effort physique, d'un déploiement de force brute. Ça veut donc dire que certains humains seraient favorisés par rapport à d'autres. Ça veut dire que Arnold Schwarzenegger, pour ne nommer que lui, ou Monsieur Univers, Monsieur Olympia, qui soulève de forts poids, ben lui serait favorisé, contrairement à quelqu'un qui serait chétif et qui aurait de la misère à lever quelque poids que ce soit. Ça serait injuste. La justice de Dieu se manifeste par le fait que notre Dieu a lui-même accompli la chose pour que personne ne puisse prétendre arriver au salut par d'autres moyens que celui qui est offert à toute personne, à tout un chacun. Et c'est là la justice de Dieu. Si Dieu permettait autre chose, il serait injuste. Nous avons tous la possibilité de nous tourner vers Christ. Nous avons tous la possibilité de consacrer notre vie à Christ. Nous avons tous la possibilité de nous repentir devant Christ. Nous avons tous la possibilité de lui vouer le restant de notre existence. Et en ce sens, Dieu est juste. Si Dieu te permettait à toi de prendre une voie détournée, de prendre un autre chemin, ce chemin-là serait injuste pour quiconque. Il n'y aurait pas accès dans les mêmes capacités que toi. La volonté de Dieu est toujours en parfait accord avec qui il est. L'action de Dieu, toujours en parfait accord avec qui il est. Et c'est là où on a aussi une réponse quant à pourquoi parfois nous ne recevons pas les réponses que nous espérions. Pourquoi parfois Dieu ne peut pas acquiescer à notre demande? Parce que parfois on demande à Dieu de faire quelque chose qui est illégal pour nous bénir. Ou parfois on demande à Dieu de bénir quelque chose que nous faisons qui est illégal. Je prends un exemple tout à fait dépourvu de sens. Mais le chrétien qui va faire un hold-up et qui dit « Seigneur, protège-moi. » Pourquoi le Seigneur te protégerait-il pendant que tu fais un hold-up? Protéger ce que tu fais, te donner du succès dans ce que tu fais, serait donner du succès à quelque chose que Dieu décrit, puisque la Bible nous dit « Tu ne voleras point. » Et là, on va le justifier en disant « Seigneur, je suis pauvre. » Seigneur, je crève la dalle. Seigneur, j'ai faim. J'ai besoin que tu m'aides à aller chercher cet argent. Donc, je fais un hold-up. Bénis-moi, puisque tu m'aimes. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas bénir ce qu'il condamne. Dieu ne peut pas approuver ce qu'il condamne. Si on dit que Dieu est juste, qu'il est un juste juge, alors le juste juge doit aussi vivre en accord avec la parfaite justice. Vous savez que lorsqu'un policier est trouvé corrompu, c'est une honte sur ce policier et sur l'ensemble de ses frères d'armes. C'est quelque chose qu'on supporte mal dans le corps policier. Lorsqu'il y a un traître dans l'armée, ce traître, lorsqu'il est découvert, est un sujet de honte et est de façon violemment réprimé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accorder le droit de faire le contraire de l'éthique liée à la fonction occupée. Un premier ministre... J'ai oublié de prendre mes anti-allergies ce matin. Un premier ministre, un président, un ministre, un député, un maire, un conseiller municipal doit vivre à la hauteur de la justice qui est liée à son travail. Notre Dieu fait toutes choses et notre Dieu je m'excuse, désire toute chose qui soit en accord avec sa réputation, qui soit en accord avec sa nature. Alors arrêtons de demander que Dieu bénisse ce qu'il ne peut pas bénir. Tu veux réparer ton terrain, tu veux aménager ton terrain, et là tu cherches quelqu'un qui va pouvoir le faire en dessous de la table, que tu vas payer illégalement pour le faire. Dieu ne peut pas bénir une telle chose. Tu dis, Seigneur, permets-moi de trouver quelqu'un qui le fasse pas cher. C'est bien, ta prière est bonne jusqu'à ce que cette personne le fasse légalement. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de te trouver quelqu'un qui va le faire illégalement. Ça serait corrompre Dieu. Et ça, ce n'est pas béni et ce n'est pas approuvé. Dieu ne fait, Dieu ne désire que ce qui cadre avec sa réputation. Il est un Dieu saint et ce que Dieu va bénir, c'est ce qui a été sanctifié. Et ce que Dieu va bénir, c'est ce qui est saint selon ses préceptes et sa pensée. Je pense que cette notion aujourd'hui doit nous éclairer. Cherchons la sainteté. Cherchons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est comment Dieu fonctionne dans les périmètres de son royaume, comment sa justice est établie, comment sa volonté est établie dans les règles qui régissent son action et sa volonté. Si tu sors de là, Dieu ne peut pas bénir ton action. Prions. Seigneur, merci pour ce rappel à l'ordre ce matin, de chercher ta volonté, de comprendre que tu ne peux pas bénir ce qui n'est pas dans ta volonté. Tu ne peux pas bénir une relation adultère. Tu ne peux pas bénir l'acquisition par le vol. Tu ne peux pas bénir l'ascension dans un poste par mensonge, par hypocrisie. Tu ne peux pas bénir ton enfant dans le soutien de l'illégalité. Il nous faut être justes en toute chose. Et lorsque nous te demandons de bénir une chose, nous devons aussi avoir pris cet engagement face à toi, de faire les choses de la manière qui t'est agréable et qui t'est honorable. Pourquoi? Parce que te pousser ou te demander de faire autrement, ça serait porter atteinte à ta réputation. Tu es le juste juge, le Dieu de toute justice, le Dieu de toute gloire. On ne peut pas, Seigneur, venir par nos propositions iniques ternir ta gloire. Alors je prie, Seigneur, que ce matin, nous prenions des décisions dans la pratique de notre vie de tous les jours, dans nos engagements de tous les jours, dans notre travail de tous les jours, que nous puissions être, que nous puissions désirer, que nous puissions faire tout ce qui cadre avec ta parfaite volonté et que nous puissions vivre dans les cadres du royaume de Dieu. Nous sommes sur cette terre, oui, entourés de pécheurs et nous-mêmes avec une nature pécheresse qui revient si souvent à la surface. Mais nous ne sommes plus de ce royaume, nous sommes du royaume de Dieu, celui qui marche selon les préceptes, la pensée et les commandements de Dieu. Et dans la plupart des cas, les préceptes du royaume de Dieu n'entrent pas nécessairement en conflit avec les lois de cette terre, hormis dans de rares occasions. Mais Seigneur, dans notre conduite de tous les jours, que nous puissions effectivement grandir devant toi, en stature et en grâce, devant Dieu, devant toi, mais aussi devant les hommes. C'est l'exemple que tu nous as donné. La parole nous disait que Jésus croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. En telle grâce que le jour où les impôts devaient être payés, tu payais tes impôts. Le jour où tu devais honorer les autorités, de cette terre, tu l'as fait sans entrer en conflit avec les règles du royaume, avec les commandements et les préceptes du royaume. Seigneur, pardon pour tous ces accrocs que nous avons faits. Pardon pour toutes ces occasions où nous avons voulu te demander et nous avons voulu te pousser à faire ce qui ne cadrait pas avec ton royaume. Nous comprenons qu'on a perdu du temps. Nous comprenons, Seigneur, que tu ne pouvais pas répondre à ces demandes, Seigneur, iniques de notre part. Seigneur, tu nous donnes l'occasion de faire mieux, de désirer mieux, d'être meilleur. Alors, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour moi-même qu'on puisse être de dignes représentants du royaume de Dieu. Nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, je m'excuse, la gorge qui pique. Alors, je vous rappelle, il se pourrait que ce soir, je ne sois pas en ligne, puisque demain, on a deux funérailles. Je vous rappelle, pour ceux qui sont à Montréal, pour la sœur Livy, c'est son fils donc, qui est décédé il y a près de 2 semaines maintenant. Donc, on fait la cérémonie funéraire demain. Vous pouvez vous présenter au salon entre 2h et 17h pour présenter vos condoléances à la sœur Livy. Elle était femme célibataire, maman célibataire et d'un fils unique. Donc, c'est un moment difficile pour elle. Vous pouvez donc la visiter entre 2h et 17h demain, entre 14h et 17h demain. Et il y aura une courte cérémonie à laquelle j'espère être de retour à Montréal à 16h30. Sinon, le pasteur André, bien sûr, sera sur place. Mais on fait tout pour, en tout cas, je fais tout pour être de retour à Montréal pour la cérémonie. Tout dépendra vraiment du trafic, mais que notre Dieu ouvre la porte. Il y a un deuxième... Une deuxième funéraille, c'est donc le frère Raymond Boissé qui est décédé au mois de janvier, mais avec la pandémie, il n'était pas possible de faire de rassemblement. Donc son épouse, la sœur Sou, a organisé pour ses proches, ses intimes et sa famille un temps de recueillement sur le terrain dans lequel il passait l'été avec son épouse. C'était un petit coin de paradis qu'il me disait, qui lui était cher, donc il va être, on va être avec elle plutôt, avec la sœur Sou, demain, en début d'après-midi. Donc je vais être là pour officier, puis je vais quitter au cours de la réunion pour me diriger vers Montréal. Alors priez pour moi, que Dieu me donne les paroles pour consoler ces deux familles, et puis honorer aussi le Seigneur à travers ces moments. Et prier que le Seigneur soit ma protection sur la route. Donc c'est à cause de ces deux événements que il se pourrait que je ne sois pas là ce soir pour me préparer un peu mieux. Pour le salon funéraire concernant le fils de la sœur Livy, c'est au coin de Bellechasse et de Saint-Michel. Donc salon funéraire qui est presque à l'angle de Bellechasse et Saint-Michel. Vous trouverez facilement, je ne vous donne pas l'adresse, juste l'intersection et vous trouverez facilement. Alors, c'est de 14h à 17h. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Marchez comme des enfants du royaume de Dieu. Agissez comme des enfants du royaume de Dieu. Désirez les choses du royaume de Dieu. Et honorez le Seigneur par toutes vos décisions et vos actions. Et rappelez-vous, Dieu ne peut bénir que ce qui cadre avec sa parfaite volonté. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à vous, peut-être ce soir, sinon demain pour les obsèques, assurément, au salon. Que Dieu vous bénisse, au revoir tout le monde.